La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. La laïcité n'est pas en glaive, mais en bouclier. C'est ce que nous explique Caroline Fourest dans son dernier livre « Génie de la laïcité » publié aux éditions Grasset. L'essayiste, journaliste et militante féministe française y défend une laïcité ferme, combative, mais équilibrée. Et nous avons le plaisir de la recevoir ce soir. Alors bonsoir Caroline Fourest.
Bonsoir.
À vos côtés, une autre femme de caractère, belge cette fois, c'est Nadia Geerts. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc Nadia Geerts, vous êtes écrivaine, philosophe, militante laïque, enseignante aussi à la Haute École de Bruxelles. On vous présente souvent comme la Caroline Fourest belge. Alors, vous en pensez quoi, finalement, ce surnom l'une
mais
et l'autre?
J'attends impatiemment qu'on traite Caroline Fourest de Nadia Geerts française. Je trouve que ce ne serait que justice. Non, blague à part, je suis très honorée.
Alors, Caroline Fourest, vous n'êtes pas la première à écrire sur la laïcité ces derniers mois. On a un peu l'impression qu'en France, il y a toute une série d'intellectuels, de philosophes qui sortent des livres sur la laïcité. Alors, pourquoi ce regain d'intérêt pour la laïcité aujourd'hui?
Il y a des livres, mais peu qui peut-être cherchent à la fois à ancrer la laïcité dans aujourd'hui et puis faire aussi un petit bond en arrière pour essayer de transmettre son histoire. Pourquoi? Honnêtement, moi, c'est mon éditeur qui est venu me dire, écoute, ce débat part dans tous les sens. Tout le monde utilise le mot laïcité, mais en même temps, plus personne n'en connaît ni bien l'histoire ni la définition. Donc Il faut que tu t'y remettes, en gros. Il m'a dit, vas-y, essaie toi qui travaille sur ces sujets depuis si longtemps, de nous offrir un outil qui permette d'y voir clair. Donc ça a été ça le défi. Et puis je me suis aperçue, d'abord moi ça m'a fait du bien, parce qu'en sortant de cette période très très douloureuse post-attentat, où j'avais écrit Éloge du blasphème, qui était un livre plus pamphlétaire pour tirer la sonnette d'alarme, pour avertir sur une forme de naïveté, de renoncement. J'avais aussi besoin de m'enfermer un peu dans cette bulle. J'ai beaucoup vécu pendant la Troisième République pour écrire ce livre. J'ai beaucoup vécu au XIXe siècle. Et j'ai revécu tous ces combats qui ont mené à l'équilibre incroyable, mais d'une sophistication et d'une ingéniosité qu'est la séparation. Et ce qui m'a le plus troublé, c'était à quel point tous les débats que nous avons aujourd'hui font écho à des passes d'armes, à des procès d'intention, à des cabales qu'ont déjà vécu ceux qui défendaient la séparation il y a un siècle. Et donc, par rapport au discours qui pour moi est le plus dangereux aujourd'hui, parce que c'est ça ma vraie hantise, c'est le discours qui cherche à dire à une partie de notre jeunesse, vous êtes des citoyens qui êtes traités différemment parce que vous êtes musulmans, la laïcité est une arme raciste qui vous vise particulièrement. J'avais envie de transmettre à quel point cette laïcité, en réalité, a été pensée pour protéger non seulement les libertés, mais aussi l'égalité de l'intégrisme catholique, et à quel point ce que nous vivons aujourd'hui n'est finalement qu'un rattrapage, qu'une mise à égalité, justement, pour protéger encore aujourd'hui les libertés et l'égalité vis-à-vis de tous les intégrismes. Si on ne transmet pas cette mémoire, c'est normal que les manipulations, les propagandes prospèrent.
Est-ce que c'est aussi l'occasion de dire cette loi de 1905 en France sur la laïcité, donc la séparation des églises et de l'État, elle est toujours bien d'actualité et il ne faut pas la réactualiser comme certains politiques le voudraient par exemple?
Oui, bien sûr. Et d'abord parce que quand une idée est aussi populaire, elle a aussi, elle a à la fois des amis, mais elle a aussi des faux amis. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de faux amis de la laïcité. Il y a des politiques qui veulent soit en faire, encore une fois, un instrument de domination culturelle, et souvent ce sont des hommes politiques ou des femmes politiques catholiques qui ne veulent appliquer la laïcité la plus ferme possible que vis-à-vis de l'islam, mais par contre sont d'un accommodement vis-à-vis de toutes les exceptions de la laïcité dès lors qu'elles sont catholiques incroyables. Donc ça, c'est pas ma laïcité, c'est une laïcité à géométrie variable qui, à mon avis, produit justement le pire, parce que ça permet la propagande dont je vous parlais tout à l'heure, qui cherche à radicaliser les jeunes en leur disant, tu vois, tu es victime de deux poids deux mesures, tu es victime de laïcité à géométrie variable. Et de l'autre côté, il y a beaucoup à l'université, chez certains intellectuels, chez certains antiracistes, une tentation de la naïveté et de l'angélisme qui est au fond de tout accepter par peur des amalgames, par peur de la récupération raciste et qui finit par ne plus défendre la laïcité, par ne plus se battre contre l'intégrisme. Or ça, c'est la fin, c'est le renoncement au progrès. C'est-à-dire que vous devenez des compagnons de route, des pires réactionnaires, des plus violents qui soient aujourd'hui dans nos sociétés. Entre les deux, redécouvrir encore une fois l'ingéniosité de la séparation telle qu'on l'a mise au point après des siècles de combats. On a ergoté sur chaque phrase, on s'est battu sur chaque virgule, mais on est arrivé à bâtir, en tout cas. Je pense que chaque pays a son chemin vers la séparation et chaque pays a sa façon de la vivre. Mais pour ce qui est de la France, on est arrivé à un niveau d'équilibre absolument inouï qui est absolument toujours valable. C'est-à-dire que vraiment, elle n'a pas pris une ride, elle est plus valable que jamais. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intégrisme, c'est vraiment le jumeau de ce qu'on appelait à l'époque le cléricalisme. Et les pères de la séparation, qui étaient tous aussi, on a oublié, mais c'était tous aussi des libres penseurs qui étaient fondamentalement attachés à l'égalité et donc ils militaient beaucoup pour, par exemple certains étaient membres de la Société des Amis des Noirs, beaucoup se sont battus pour défendre les minorités religieuses, les protestants, les juifs. Donc c'était déjà des gens qui pensaient en permanence à cet équilibre entre égalité, lutte contre les préjugés, lutte contre les superstitions, et c'est pour ça qu'ils ont voulu l'école publique laïque, dans la lignée de Condorcet. Les Ferdinand Buisson étaient des élèves de Condorcet. Et en même temps, ils avaient conscience que l'idéologie qui le plus menaçait ces libertés et l'égalité, c'était l'intégrisme religieux sous toutes ses formes. Qu'ils se revendiquent du catholicisme ou qu'ils se revendiquent de l'islam ne change rien à l'affaire. C'est la même méthode, c'est la même démarche.
Nadia Geerts, on le voit effectivement, les parcours de chaque pays sont différents. Mais en Belgique aussi, on voit qu'il y a quand même on recommence à parler de laïcité, on parle d'inscrire la laïcité dans la Constitution. Donc on voit que le débat autour de la laïcité anime aussi chez nous. Mais est-ce qu'il l'anime différemment? Quelles sont un peu les comparaisons qu'on peut faire avec l'histoire française?
Malheureusement, pas beaucoup. Puisque la Belgique n'a pas vécu ni de révolution française, forcément, ni de révolution belge digne de ce nom. Je veux dire, notre révolution à nous, ça a été une révolution conservatrice. C'est pas du tout une révolution d'émancipation, ni contre le clergé, ni contre la monarchie. On le sait bien. On n'a pas vécu non plus de loi de 1905. Et donc, on a une histoire qui est plus une histoire, j'ai envie de dire, de recherche du compromis, de recherche d'un équilibre, d'un juste milieu qui convienne à chacune des parties. Hein. On n'est pas un peuple, sans vouloir faire d'ethnicisation, mais on n'est pas un peuple de révolutionnaires. On est un peuple de gens de compromis. On a envie de se brouiller avec personne, de pas se fâcher, de trouver des solutions à l'amiable. Hein. Et parfois, évidemment, le compromis devient de la compromission. Ça, c'est la fin de la parenthèse. Et donc, effectivement, dans notre histoire, nous sommes construits, j'ai envie de dire, sur la reconnaissance et le financement d'abord de trois cultes, hein, catholiques, protestants, israélites. Et puis évidemment, nous avons été amenés dans la même logique à accorder au suivant ce que nous avions déjà accordé au premier. Et c'est ainsi qu'on en est venu aujourd'hui à reconnaître, si ma mémoire est bonne, pas moins de 9 cultes, parmi lesquels la laïcité organisée. Hein, paradoxe assez interpellant tout de même. Et donc, je pense qu'à un moment donné, tôt ou tard, il faut bien reconnaître qu'on va dans le mur, qu'on est dans une solution qui aujourd'hui n'en est plus une, c'est-à-dire qu'elle ne répond plus aux exigences de la modernité, aux exigences d'une société de plus en plus multiculturelle, parce que nous avons toujours fonctionné dans un système qui est un système de chapelle, un système de piliers. La Belgique est un pays hyper pilarisé, donc ça part toujours de cette même tentation de ne pas se brouiller. Donc pour ne pas se brouiller, on fait des commissions, on fait des chapelles, on fait des groupes, hein, comme ça on ne se rencontre pas trop et chacun dans sa bulle, ça se passe bien. Mais aujourd'hui, je pense qu'on atteint un petit peu les limites de cette logique. C'est-à-dire qu'on voit à quel point l'école aujourd'hui contribue peu à former des citoyens, par exemple, pour en parler deux minutes d'un débat très moderne. Très actuel, nous en sommes enfin arrivés à cette rentrée scolaire 2016, à introduire un cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté à l'école primaire en 2017. Et ça ne s'est pas fait en retirant non plus des grilles horaires les cours de morale et de religion. Donc on en est quand même toujours pas arrivé au point d'oser dire franchement que l'école officielle n'a pas pour mission de former des bons petits croyants. On en est toujours dans une recherche d'équilibre en se disant, allez, c'est vrai que tout de même, les cours de religion, est-ce qu'ils ont vraiment leur place? Mais ne nous brouillons pas avec les différents religieux, donc introduisons la citoyenneté, mais sans réellement supprimer les autres cours. Donc on est un petit peu empêtré dans notre tradition, qui est philosophique, mais qui est aussi, j'ai envie de dire, influencé par la géographie. Je crois que ce n'est pas un hasard si on est entre la France et les Pays-Bas. Voilà, on est entre un pays qui est une république centralisatrice jacobine laïque et un pays qui est extrêmement tenté par le modèle anglo-saxon, multiculturaliste, même si il semble y avoir des développements récents qui aillent plutôt dans le sens de quelque chose d'un peu plus laïque, mais on en est au bredouillement, et donc nous sommes vraiment au carrefour entre les deux, et on hésite et on tâtonne, comme souvent, malheureusement.
Est-ce qu'il y aurait aussi une certaine mollesse, si on peut dire? Parce que, par exemple, je sais, dans votre livre, Caroline Forest, et dans vos interventions, de façon générale, vous reprochez souvent à une certaine gauche d'être une gauche molle qui n'a pas un discours assez ferme. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut constater chez nous, qu'on peut faire
C'est pas tellement en termes de mollesse, c'est en termes de manque de lucidité. Moi, je me suis beaucoup battue depuis 20 ans pour qu'il existe en Europe une gauche laïque et donc qui soit justement une alternative à la droite identitaire et xénophobe. Parce que depuis 20 ans, travaillant sur le radicalisme religieux, je vois monter des phénomènes de sectarisme, de communautarisme et de violence qui allaient forcément conduire à des remises en cause des sociétés. Face à ce que nous vivons, et en France nous en sommes à plusieurs attentats répétitifs, ça change une société, ça l'use psychologiquement. Les gens sont en colère. Je sais qu'en Belgique vous avez moins, vous êtes plus calme que nous. Mais quand même, vous n'en avez connu qu'un gros d'attentats, mais quand vous en aurez plusieurs, vous ne pouvez pas ne pas redouter qu'à un moment donné, la colère s'empare des gens. Et ce serait assez légitime. Soit vous avez une gauche structurée qui dit « mais nous, on n'a jamais eu peur de nommer les choses. On dit oui, il y a un problème. On ne peut pas laisser des poches de radicalité défaire notre collectivité, notre communauté de vie. Soit, si la gauche n'est pas capable de porter ce discours, les gens vont se jeter dans les bras d'une droite peut-être toujours plus dure, toujours plus intolérante. Ça donnera Trump aux États-Unis. Et c'est peut-être pour moi la preuve de ce que j'écris depuis des années. C'est que je ne crois pas, moi, que le modèle angélique, multiculturaliste, anglo-saxon est une réponse à ce que nous vivons. Je pense au contraire qu'ils sont voués à l'échec et qu'ils sont voués justement à générer des retours de bâton populistes, identitaires et racistes extrêmement violents. Et c'est pour éviter ce retour de bâton que je me bats depuis si longtemps pour une gauche laïque. Je comprends cette tentation parce qu'il y a beaucoup de gens qui... D'abord, il faudrait clarifier les termes. Il faut expliquer aux gens que quand on est critique envers l'angélisme multiculturaliste, on n'est pas en train de parler de remettre en cause le multiculturel. Et d'ailleurs, la droite identitaire contre laquelle je me bats aussi fait souvent la confusion. Elle dit aujourd'hui, nous ne sommes pas des pays multiculturels. Bien sûr que si, nous sommes des pays multiculturels. C'est même pas un objet de débat, c'est l'état du monde et de nos vies. Le multiculturalisme, c'est très différent. C'est une politique publique qui, au fond, vise à plutôt cultiver ce qui différencie que ce qui relie. Dans le monde actuel, avec ces replis identitaires multiples, que ce soit l'islamisme, que ce soit l'extrême droite, que ce soit toutes ces poches de radicalité, mon diagnostic est celui de tous les universalistes et de tous les laïcs, au fond, c'est de dire « nous avons besoin que les États, au contraire, renforcent ce qui relie, ce qui nous rassemble et donc mettent le paquet sur la citoyenneté ». Et c'est pour ça que je pense que la question scolaire est au cœur de nos débats. Et malheureusement, les politiques vont essayer de l'éviter parce que ça les arrange pas, parce que ça demande du courage, parce que certains sont catholiques et ne veulent pas y toucher. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si des États, quelle que soit leur histoire, ne renforcent pas la citoyenneté auprès du plus grand nombre de jeunes, par le biais du quoi le seul outil qu'ils ont vraiment, c'est l'école, si on continue à laisser l'école reproduire ses compartiments, ses fractures, en commençant déjà à trier les élèves en fonction de la religion de leurs parents, en les encourageant même dans cette voie sans jamais les faire passer par une case qui serait une école publique où ils sont tous traités comme des citoyens et qu'ils suivent ensemble les mêmes cours de citoyenneté sans être séparés à certaines heures de la journée en fonction de ses identités confessionnelles, mais ça n'ira que de mal en pis. Parce que le mal actuel, c'est que face à la mondialisation, les gens se replient sur leur identité confessionnelle et qu'au sein de ces groupes confessionnels, les plus violents, les plus dominants sont en train d'intimider tous les autres.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand on voit le succès de Trump aux États-Unis, quand on voit le succès d'une certaine droite décomplexée, on va dire, en Europe, est-ce qu'il n'y a pas un certain retour aussi de l'ordre moral? Je ne sais pas, Nadia Geertz, vraiment ce retour de l'ordre moral au sein de la société?
Mais alors, je crois que c'est surtout l'expression d'une peur, en fait, d'un monde qui bouge, d'un monde qui change, où le rapport à l'altérité est quand même, j'ai envie de dire, fameusement biaisé. Enfin, moi, je suis souvent interpellée par le rapport qu'on a à la différence, et en particulier par rapport à des différences qui, à mes yeux, ont aussi peu d'importance que la couleur de peau, par exemple, hein, et qui sont valorisées par les uns et stigmatisées par les autres. Enfin, petite anecdote, parce que moi, j'ai toujours trouvé ça très drôle qu'on parle d'Obama comme étant le premier président noir. Pourquoi ? Ben d'abord parce qu'à mes yeux, il n'est pas noir. Enfin voilà, il est quand même très clair pour un noir.
Il est métis.
Voilà. Et puis surtout parce que ça me paraissait être une espèce d'argument de vente de la part des antiracistes, de dire regardez comme c'est merveilleux, comme nous sommes ouverts, nous avons enfin notre premier président noir, réjouissons-nous, voyez. Et de l'autre côté, vous aviez évidemment les racistes qui disaient c'est catastrophique, notre monde où va-t-il ? Nous en sommes maintenant à avoir un président noir, nous sommes complètement dépossédés de notre culture, de nos racines, etc., etc. Et donc, je pense qu'à un moment donné, et ça rejoint ce que disait Caroline il y a un instant, hein, l'accent sur la citoyenneté, c'est aussi l'accent sur le développement du fait que ce qui compte, ce sont des valeurs portées par les uns et par les autres, et pas des choses aussi superficielles, aussi indignes d'intérêt que la couleur de peau. Mais pour ça, je pense qu'il faut rompre avec une logique dans laquelle je pense qu'on a baigné depuis très longtemps, qui est une mauvaise compréhension de ce que c'est que le respect de l'autre et de ce que c'est que la tolérance. Je pense qu'on nous a élevés, peut-être plus en Belgique qu'en France, on nous a biberonnés avec l'idée qu'il fallait être tolérant, et on ne questionne pas cette tolérance aujourd'hui. On ne sait pas ce que c'est qu'être tolérant. Est-ce que être tolérant, est-ce que ça veut dire tout accepter ? Est-ce que ça veut dire ne plus oser dire qu'on est en désaccord ? Et je crois que nos sociétés sont malades de ça. Je pense qu'il faut vraiment réinvestir la culture du débat. Dès le plus jeune âge, apprendre aux enfants qu'ils ont le droit de dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Je pense que ce que tu dis est profondément inexact ou ne tient pas la route deux minutes, et on va en discuter ensemble. Et on va en discuter dans le respect de la personne. La personne n'est pas en cause, mais on a le droit au désaccord et on a le droit à la virulence dans le propos. Et évidemment, la question du blasphème, eh bien, elle se pointe là aussi, hein, parce que c'est aussi de ça qu'on parle quand même. On est toujours dans cette idée « oui, mais tu ne me respectes pas parce que tu ne respectes pas ma croyance ». Mais non. Et je pense que si on pouvait avoir un rapport beaucoup plus décomplexé à la critique des idées, on ferait un grand pas vers peut-être une meilleure manière de vivre ensemble.
Une réaction peut-être, Caroline Forest, je vous voyais réagir pendant l'intervention.
Mais oui, c'est le drame, on est souvent d'accord avec Nadia.
Prodigieusement.
Non, mais c'est aussi rassurant sur le fait que, vraiment, et je le vois à peu près dans tous les pays européens, il y a partout des esprits libres qui, depuis des années, essaient de dire la même chose et qui essaient de défendre, au fond, un idéal qui est très difficile à expliquer, mais qui, je pense, fera à nouveau rêver de plus en plus de gens quand ils seront allés au bout de ce que veut dire l'identitarisme ou le multiculturalisme, qui, au fond, mène au même point, c'est l'universalisme. L'universalisme, c'est vraiment un idéal extrêmement ambitieux, parce que ça demande à la fois de respecter tout le monde et en même temps de dépasser les identités pour effectivement pouvoir se parler à égalité et parler des idéaux, pas simplement de la couleur de peau, pas simplement des apparences. C'est plus compliqué. Objectivement, nous sommes dans un monde, je crois qu'on n'a pas pris la mesure de la révolution cognitive, technologique que nous venons de subir, qui est à la fois merveilleuse mais qui en même temps nous plonge, nous bombarde d'informations. Donc nous vivons une mondialisation des représentations incroyable, et du coup, dans ce magma, beaucoup se raccrochent à peut-être des apparences, à des identités, à des tribus, parce que ça les rassure. Et la montée, si vous voulez, de l'intégrisme religieux comme de l'extrémisme raciste, pour moi, ce sont les deux faces d'une même pièce, qui est cet identitarisme, ce retour à la tribu, ce retour à moi contre les autres. Et au milieu, les universalistes et les laïcs essaient de proposer de s'accrocher justement à cette ambition. On s'est fait traiter d'islamophobe, de raciste, pour avoir simplement défendu en fait le contraire, c'est-à-dire défendu justement cette égalité, pour avoir défendu que, ce que disait Nadia à l'instant, la critique des idées n'est pas la critique des identités. On peut être absolument, et c'est justement parce qu'on est antiraciste, que l'on réclame le droit de débattre de toutes les croyances, de toutes les idées, sans que cela devienne des outils pour asservir et dominer culturellement. Et donc on est un peu pris en étau, on a des journées compliquées objectivement, parce que on vient de passer 20 ans à être peut-être ceux qui résistent le plus face à tous ces radicalismes, à avoir, se dire aujourd'hui défendre la laïcité, ça veut dire vivre dans des conditions de sécurité précaires, de pouvoir être menacé de mort, de perdre des amis dans des attentats. Et de l'autre côté, on sent que, alors qu'on tient bon, que justement on propose quelque chose de très modéré, de très équilibré, qui objectivement fortifie le bien public et donc le plus grand nombre, quand la colère face à ces attentats, face à cette violence, face à cet intégrisme est décuplé, ceux qui vont ramasser la mise, ce sont d'autres extrémistes, tout aussi fanatiques, mais simplement plus bon chic, bon genre. Ils ont des carrés Hermès, ils ont des barbours, ils vont à la messe, ça rassure tout le monde. Mais en réalité, ils pensent à peu près la même chose des femmes, ils pensent à peu près la même chose des homosexuels. Et donc, c'est eux qui vont ramasser cette colère pour opposer une identité confessionnelle à une autre. Ça demande de prendre des coups de partout, ça demande de réexpliquer en permanence que la laïcité, encore une fois, ça n'est pas quelque chose qu'on applique selon la religion et selon ce qui nous arrange, c'est valable pour tout le monde. Je pense que essayer de sanctuariser notre école commune, qui est l'école publique, tout en laissant la liberté de l'enseignement et à qui veut mettre ses enfants à l'école religieuse, a le droit. Mais l'école publique doit être un sanctuaire commun, ne serait-ce que pour renforcer cette citoyenneté, faire en sorte que des espaces communs symboliques comme le Parlement, comme les représentants du peuple, ne soient pas porteurs de signes distinctifs religieux, mais incarnent au contraire l'ensemble de la communauté publique. Ça fait partie de ces lignes de force qui maintiennent ce qui fait qu'on est une société qui tient ensemble, ce qui fait qu'on ne se dilue pas, et donc forcément qu'on a moins tendance à se replier sur des tribus en guerre les unes contre les autres.
Alors, vous l'avez dit, on vous a toutes les deux déjà taxé d'islamophobie, vous êtes critiquée par certains. Comment dépasser ça? Parce que dans le livre, par exemple, Caroline Fourest, vous avez un discours assez équilibré finalement. Ferme, mais équilibré, parce qu'il s'attaque à tous les intégrismes religieux et pas uniquement aux intégrismes islamistes. Comment du coup se faire entendre par la communauté musulmane, par les musulmans, qui se diraient Nadia Gertz, Caroline Fourest, elles sont contre nous?
Mais moi, je crois qu'il y a dans la laïcité quelque chose d'extrêmement exigeant, qui en fait la force aussi et qui peut être communiqué y compris à des interlocuteurs musulmans. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que dans tous les discours différentialistes, dans tous les discours qui visent effectivement à faire des musulmans des citoyens pas comme les autres, qui auraient droit à des accommodements, à des aménagements, à un traitement différencié, il y a quelque chose d'extrêmement méprisant en fait. Quelque part, il s'agit toujours de leur dire « vous n'êtes pas comme nous ». Vous n'êtes pas tout à fait capable de comprendre la laïcité parce que votre culture est différente, votre background n'est pas le même, etc., etc. Et je crois que là, il y a quelque chose qu'on peut faire d'un point de vue pédagogique par rapport à la laïcité, c'est de dire, écoutez, pour moi, vous êtes un être humain comme un autre. Et donc, j'ai pas l'intention de diminuer mes exigences vis-à-vis de vous sous prétexte que vous êtes musulman parce que ce serait terriblement insultant. Moi, j'ai envie de vous prendre comme un être humain, comme moi. Vous avez une intelligence, vous avez un cerveau. Vous êtes donc capable de comprendre un discours articulé qui est au service du bien commun. Parce que c'est ça aussi, c'est ça évidemment le plus important, c'est que la recherche, ce que nous cherchons quand même aujourd'hui à développer, c'est une manière de vivre ensemble de manière apaisée. Je pense qu'on a tous pu voir au cours de l'histoire à quel point la religion, lorsqu'elle se mêlait de politique, faisait des dégâts. Et ça, je pense que tout être humain de bonne foi, sans mauvais jeu de mots, doit le reconnaître aujourd'hui. Et donc, il s'agit pour moi de dire, ben voilà, cherchons ensemble une solution, reconnaissons que ce que nous vous accordons à vous, nous devrons nécessairement l'accorder à tous les autres qui le demanderont. Et donc, nous allons nécessairement finir par morceler la société. Et ça, c'est préjudiciable à tous.
Franchement, la question que vous posez, c'est le plus dur à résoudre. C'est-à-dire que ça fait quand même, au cours de toutes ces années, c'est vrai que les procès d'intention, les cabales, vos propos qui sont absolument complètement déformés, les livres qui ne sont pas lus, c'est un combat de tous les jours. Et en même temps, c'est ça l'hygiène de cette histoire. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas trouvé d'autres moyens. Mon obsession, c'est vraiment, vraiment d'arriver à convaincre des gens de bonne foi qui peut-être ne connaissent pas la laïcité, à quel point justement elle est la meilleure arme contre le racisme. Et c'est ce que disait Nadia, on a tellement vu ces dernières années des gens qui nous traitaient, nous, d'islamophobes, alors qu'ils savaient pertinemment, pour certains, parce que c'est parfois des copains avec qui on a milité contre le racisme ensemble, ils savent pertinemment qu'on n'est pas du tout, ni l'une ni l'autre, ni tous ceux qui sont traités d'islamophobes racistes. Mais eux, quand on parle un peu avec eux, en fait, ils ont effectivement ce que disait Nadia, une vision assez exotique de la communauté musulmane, ils mélangent un peu tout. Moi, ce que je sais de la lutte contre l'islamisme, je le dois beaucoup à des réfugiés politiques algériens ou iraniens. C'est eux qui m'ont transmis beaucoup, beaucoup de cette énergie et de cette histoire pour pouvoir rester vigilant. Avant de travailler sur l'islamisme, j'ai travaillé 10 ans sur l'intégrisme catholique, sur Christine Boutin, sur les commandos anti-avortement. Et c'est effectivement au moment où j'ai commencé à travailler sur Tariq Ramadan, de la même manière que j'avais travaillé avant sur Christine Boutin, que j'ai perdu beaucoup d'amis, que j'ai subi beaucoup de procès d'intention et que j'ai été désignée comme islamophobe sur des sites intégristes. Mais je veux dire, j'ai aussi de jolis posters dont je suis assez fière sur des sites intégristes catholiques qui me traitent de christianophobe. Et le seul moyen de faire comprendre à tout le monde que oui, cet idéal qu'on défend s'applique vis-à-vis de tous les intégrismes et donc pour protéger l'égalité, c'est de se faire engueuler de partout, en fait. C'est d'aller à la télé, être obligé d'affronter Éric Zemmour, Marine Le Pen, sur le racisme, d'ailleurs anti-musulman du Front National, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai eu des débats contre elle. Et d'accepter que, avec l'espoir, ça fait des vies un peu compliquées, objectivement, parfois c'est un petit peu crevant, mais avec l'espoir que quelqu'un qui peut-être n'avait pas compris l'ensemble de votre démarche, parce que souvent des gens font en sorte qu'ils ne comprennent pas et ne veulent pas qu'ils comprennent, et vous attaquent toute la journée, à un moment donné, quand ils vous voient continuer à essayer de défendre quelque chose au fond très 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 modéré et très équilibré, ils finissent par se dire, peut-être que ce qu'on m'a dit était faux, et je vais peut-être aller lire. Et puis c'est ça la rencontre, c'est que moi j'ai eu plein de fois ça, des gens, y compris des élèves de Tariq Ramadan, qui ont fini par lire mes livres et qui sont pas devenus des amis, mais qui sont devenus des gens avec qui je continue d'avoir des échanges réguliers parce que ils sont sortis de l'islamisme. C'est ça la plus grande victoire. Si tous les coups valaient quelques victoires comme celle-là, oui, ils le valent.
Alors Caroline Fourès, dans votre dernier livre « Génie de la laïcité », vous prenez pour une véritable politique laïque. Alors l'une et l'autre, si vous aviez une chose sur laquelle vraiment accentuer pour cette véritable politique laïque, ce serait quoi?
En un mot, l'école.
L'école. Et on est d'accord sur tout.
Vous êtes décidément d'accord sur tout.
On est d'accord sur tout.
Oui, et alors si je peux développer un peu, un principe fondamental pour moi et que Caroline a déjà évoqué, c'est le fait de refuser donc que la puissance publique, quelle que soit la forme qu'elle prenne, refuse de traiter ses citoyens autrement que comme des citoyens. C'est-à-dire, c'est la meilleure manière de garantir l'égalité pour moi. À partir du moment où on commence à avoir un discours spécifique envers les catholiques, envers les musulmans, envers les juifs, envers les bouddhistes, envers les bahaïs, envers les athées, etc., on est parti pour la galère, quoi.
Imaginez que l'État, au lieu de dépenser des milliards, et c'est le cas en France, on dépense 11 milliards pour des écoles privées quasiment essentiellement confessionnelles, alors qu'on est censé être un pays
ultra laïque. Et on ne va pas faire le lien avec la Belgique, parce que c'est encore pire.
Imaginez que tous ces millions, ces milliards, ne soient plus utilisés à fortifier ce qui déjà est extrêmement développé, c'est-à-dire plutôt la communautarisation confessionnelle au mieux, voire parfois le repli intégriste, qu'on le retire, qu'on laisse les gens le payer tout seul, s'ils en ont envie, et qu'on mette cet argent et ces moyens au service de programmes de citoyenneté, d'apprentissage de la laïcité, aussi de services publics tout simplement qui rassemblent. Vous changez le cours de l'histoire. Et si pendant le même temps des gens arrêtent de voter pour des bourgmestres qui sont des bourgmestres vérolés, clientélistes, et qui flattent le pire pour se faire réélire, vous avez sauvé votre société.
Oui, le clientélisme religieux, Nadia Guerre, juste en un mot, c'est aussi quelque chose qu'il faut bannir aujourd'hui.
Mais oui, c'est insupportable et ça prend différentes formes, que ce soit un bourgmestre qui va faire campagne dans les mosquées, par exemple, ou que ce soit une mandataire politique qui est élue sur une liste sociale chrétienne, puisque je me refuse à l'appeler humaniste, et qui se retrouve au Parlement bruxellois en affichant un voile et qui ensuite va défiler auprès d'Erdogan en Turquie. Enfin, je veux dire, on est là dans quelque chose qui n'est plus du tout lisible. Par le citoyen. La politique, c'est deux choses. C'est à la fois un très bel idéal. D'abord, on en a besoin, tout simplement, de manière très pragmatique. C'est la seule manière qu'on ait trouvé aujourd'hui pour vivre ensemble, c'est de faire de la politique au sens noble du terme. Et puis, ce sont aussi des intérêts particuliers à court terme, malheureusement, puisqu'on est toujours dans une logique, et en Belgique encore plus probablement, avec nos systèmes d'élections et de mandats qui durent 4 ans, 5 ans, 6 ans selon les lieux de pouvoir. En fait, nos politiques sont parfois quasi tout le temps en campagne. S'ils commencent à le faire en transigeant avec les principes, plutôt qu'en faisant de la pédagogie pour expliquer pourquoi ils vont développer telle mesure, ça pose effectivement beaucoup de problèmes.
Ben voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Mais donc, Nadia Geers, Caroline Forest, merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Je rappelle donc le titre de votre livre, Caroline Forest, c'est Génie de la laïcité, publié aux éditions Grasset. Et je terminerai d'ailleurs l'émission avec une phrase de ce livre, Le génie de la laïcité, seule lumière réellement capable de nous éloigner de l'obscurité. Merci à toutes les deux et merci à vous de nous avoir suivis. Belle soirée à tous.
En quête de sens, sur la première.